Okapi.
Okapi, invité du jour.
Okapi.
Célébration ce mardi de la Journée mondiale de la santé en RDC. Le ministre de la Santé estime prématuré de faire le bilan. Mais Auguste Maupipi estime tout de même que globalement l'état de la santé de la population est assez acceptable. Il est notre invité du jour et s'entretient avec Innocent Oling.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Ce mardi, c'est la Journée mondiale de la santé. Quel est l'état de la situation sanitaire en RDC?
Aujourd'hui, je crois qu'il serait un peu prématuré de répondre à cette question, étant donné que dans 2-3 semaines, nous allons organiser ici à Kinshasa la revue annuelle du secteur de la santé. À ce moment-là, nous allons faire un peu le bilan de l'offre de santé que le gouvernement propose à la population. C'est à ce moment-là que nous pouvons alors évaluer tous les indicateurs de santé et savoir effectivement qu'est-ce que nous faisons. Mais ce qui a lieu de le croire, c'est que le gouvernement fait tout pour essayer de maintenir l'état de santé de la population à un niveau acceptable.
Sauver des vies, des hôpitaux sûrs dans des situations d'urgence, c'est le thème de cette année. Est-ce que des hôpitaux sûrs pour des situations d'urgence, on en a en RDC?
C'est un défi pour nous d'avoir des hôpitaux sûrs. Ce que vous devez retenir, c'est que en cas de grave crise, de crise de conflit armé, par exemple, nos forces armées, à même nos policiers, sont là pour essayer de protéger ces structures de santé. Mais le constat amer que nous faisons, c'est que les rebelles ou les agresseurs très souvent s'en prennent à nos structures de santé. Là, c'est un problème. Il n'y a aucune institution qui est épargnée quand les rebelles ou des gens non organisés s'en prennent à des structures de santé.
La santé, c'est l'un des 5 chantiers de la République. Qu'est-ce que le gouvernement a déjà fait de concret dans ce domaine?
Beaucoup et plus. Vous savez, en termes, par exemple, de renforcement du système de santé, la République pose de beaucoup d'actes, peut-être de petits actes, de réhabilitation. Je prends l'exemple des centres de santé de Ngaba, de Matete, de Lemba. Et je puis même prendre les 25 zones de santé qui doivent être revitalisées par la Banque africaine de développement province orientale. Et un peu partout comme ça, sur l'ensemble du territoire, les centres de santé que le gouvernement est en train de construire, un centre par province, il y a un qui a été inauguré ici à Kinshasa, à Kimbaseke, un autre à Lubumbashi, il y a peu, et puis d'autres qui viendront. Ce sont là des actes que le gouvernement pose et qui, dans l'océan de problèmes qui se trouve, quelque peu dilué. Mais nous posons des actes. Ça, c'est pour les établissements. S'agissant du personnel, les gouvernements font un effort. Je donne un exemple. Il y avait un gap de 20 000 par rapport au régime général. Je parle des rémunérations ici. Le gouvernement a consenti cet effort, malgré la crise actuelle, d'accorder les 20 000 francs congolais au personnel de santé pour qu'ils puissent corriger un peu cette erreur. Le gouvernement fait des efforts sur le plan de l'approvisionnement en médicaments. Et c'est chaque trimestre, parce que les députés, les sénateurs vont en vacances tous les 3 mois, le gouvernement met à leur disposition des médicaments pour acheminer aux zones de santé rurales et même éloignées, disons, de la capitale. Je parlerai aussi des équipements. Nous utilisons la même voie, disons, les mêmes personnes pour essayer d'envoyer des équipements. Et même quand les médecins inspecteurs provinciaux viennent ici à Kinshasa, le gouvernement de la République met à leur disposition des équipements. J'ajouterai que au mois d'août, on a mis à la disposition de gouverneurs de province des médicaments, des équipements, des matériels médicaux, des intrants, des laboratoires. Comme nous sommes un domaine technique, nous agissons. C'est au résultat, évidemment, qu'on nous juge. C'est pourquoi je vous dis que, globalement, l'état de santé de la population de la République est assez acceptable.
Monsieur le ministre, il y a des coins dans ces pays où il n'y a ni médecin, ni infirmier, moins encore un comprimé d'aspirine, et où les gens meurent d'anémie, des malarias, des choléra et autres maladies curables facilement. Quelle stratégie pour que la santé à milliers ruraux soit promue?
Aujourd'hui, nous parlons de la revitalisation des zones de santé. C'est peut-être pour répondre à ces besoins-là aussi, parce que cette revitalisation doit essayer d'offrir à l'ensemble de la population des soins et des services de santé de qualité. C'est pourquoi, d'ici là, quand nous allons procéder à la revue annuelle du secteur de la santé, nous allons même inviter nos partenaires sociaux qui nous aident dans ce secteur de pouvoir s'aligner à la politique nationale pour que, ensemble, nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons offrir des soins de qualité à l'ensemble de la population sur toute l'étendue. Il y a 515 zones de santé. Jusqu'au moment où nous parlons, je crois qu'il n'y a que les 2/3 qui bénéficient des apports de partenaires, qui bénéficient évidemment des actions du gouvernement pour la bonne et simple raison faisons qu'il y a des zones de santé, il y a des coins où les médecins ne veulent pas le travailler, ou alors les infirmiers qui sont sur le terrain trouvent qu'ils ne sont pas suffisamment encadrés. Et là, c'est lié aussi au revenu de la population. Parce que il faut vous rendre compte que quelqu'un qui a étudié, qui a son diplôme et qui accepte d'aller travailler en milieu rural, il faut croire que ce sont des gens qui ont un esprit de sacrifice, qui se dévouent pour le pays, pour faire ce travail. Et croyez-moi, s'il n'y a pas le moyen pour les aider à faire le travail, on arrive à ces résultats. Mais au niveau du ministère de la Santé, nous sommes en train de voir comment planifier les choses. Essayer évidemment de persuader les jeunes gens d'aller à l'intérieur, ce qui n'est pas évident.
Oui, vous avez parlé des partenaires. Quel bilan faites-vous de leurs rapports?
Laissez-moi croire que les partenaires ont jusqu'à présent été d'un apport très bénéfique. Je ne prends que l'exemple de l'épidémie d'Ebola. Les premiers à tomber, c'est d'abord l'OMS, effectivement, c'est son rôle, effectivement. Mais il y avait MSF Belgique qui était déjà sur le terrain et il y avait d'autres qui ont suivi. Et je prends aussi l'exemple de toutes les épidémies qui sont quasi endémiques chez nous, choléra, fièvre typhoïde et tout ça. Et ce sont les partenaires qui sont parmi les premiers à être sur le terrain. Non seulement ils viennent main vite, ils amènent des équipements, ils amènent les médicaments. L'apport des partenaires est salutaire à tous égards, mais difficile à évaluer. Pourquoi? Parce que les partenaires, très souvent, suite évidemment à la rupture de la coopération structurelle entre la République démocratique du Congo et ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, les partenaires, ils agissent à leur gré, si bien que ça crée un peu un cafouillage dans le secteur de la santé. Et ici, par exemple, en chiffres, selon une étude de la Banque mondiale, on a pu évaluer jusqu'à 185 millions de dollars les apports des partenaires. Mais ce n'est que le dixième de tout ce que leur gouvernement, leur organisme promettent. Les engagements sont au-delà de ce qui est décaissé. Ça relativise un peu ce que le partenaire arrive. Donc ici, je ne joue pas l'équilibrisme, mais ce qui est vrai, c'est que sur le terrain, effectivement, ils font un travail formidable. Là, nous l'apprécions. Mais maintenant, nous devons essayer de faire les choses de façon cohérente pour qu'il y ait une certaine synergie, pour qu'il y ait une certaine stratégie qui permette évidemment d'intégrer les apports des uns des autres, mais de permettre aussi au gouvernement d'atteindre les objectifs de santé.
Je vous remercie, monsieur le ministre.
Ah, c'est moi qui vous remercie.